Jeudi, Morgane Grignan, Tom Villa,
bonjour.
Alexis Le Rossi, bonjour. Le retour de la vengeance de Tanguy Pression. Notre invité Thierry Marx.
Bonjour
tout le monde.
Tanguy, tu m'as manqué.
Ouais, c'est bah, j'étais déjà là hier.
Tanguy, t'as pas vu hier.
Mais je suis en meilleure forme qu'il est.
J'ai trop discret hier.
Hier, j'étais pas bien.
Mais je vais le dire pendant une semaine.
C'est pas le premier mec qui t'a manqué.
On n'a pas le temps là. On a vraiment pas le temps.
C'est un gros dossier.
En tout cas,
Thierry Marx est notre invité pour nous présenter son magazine Bon, pour parler cuisine évidemment, bien-être, santé, parce que tout ça va intégration aussi, acceptation de la différence dans ces écoles de cuisine. C'est un homme qui touche à tout et chaque fois en essayant de bien faire pour l'autre. C'est ça qui est passionnant avec lui. On le reçoit dans quelques instants. Nous parlons donc cuisine et le blind test.
Morgane, bon attendeur.
Salut.
Double bon en plus.
Finement observé.
Ça vient d'où ce truc-là, à bon entendeur, salut.
C'est une expression populaire.
J'entends, mais c'était quoi, dans un roman, dans une fable, dans un...
Je ne sais pas tout ça.
C'est dans une famille qui s'appelait Entendeur. Pour voir si c'était vrai, on disait à bon entendeur, salut, celui qui se reconnaît.
Sors-le ton livre des origines des expressions françaises, vu par le
démon. Je vais aller les chercher.
Qui chante ça?
Tanguy,
oui.
C'est Bon Jovi, ça.
Oui, que c'est bon.
Living on a prayer.
Il y avait même une gueule ici, Bon Jovi.
C'est génial qu'il trouve.
C'est génial. Bon Jovi, c'est fait. Il était arrêté, j'ai pas entendu ça.
On dit pas ça tout le
temps. Là, c'est Bon Jovi.
Oui, là, c'est le Bon Jovi. D'accord. Écoutez, allez trouver des trucs avec Bon.
Non, mais bien joué.
Bah alors...
Tanguy, oui. La compagnie créole.
Oui.
Joyeux Noël.
Waouh.
Non, Morgane, fais pas la gueule.
Eh.
Il est où le bon?
Bon, mais c'est dégueulasse.
C'est bon pour le moral.
Bah oui, moi j'attendais ça.
C'est bon baiser. Écoutez, je fais ce que je veux. Ce que je peux surtout.
Oh, c'est trop moderne pour moi ça.
Joule.
Non.
Mais c'est pas Joule.
Morgane, c'est Katy Perry.
Joli.
Bon appétit bébé. C'est le titre.
Je parle pas d'ailleurs. Exactement, le titre c'est Bon appétit.
C'est vrai ?
Mais tellement.
Non.
Bon appétit bébé.
Oh.
Je suis passée à côté et finalement c'est pas si grave. Bon appétit. C'est pas sa meilleure.
C'est efficace quand même.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est quand même pas mal.
On sait pas trop comment danser, quand même.
C'est quand même pas bien.
Qui chante?
Tanguy.
Oui.
Ben, un chant fort.
Mais
bon,
oui.
Baiser,
oui.
Secret, classé, secret, secret, un baiser codé.
Secret. J'en ai un. Bon baiser. En tête, avec bon, c'est toi.
Discret. C'est-à-dire que toi, en fait, tu fonctionnes à l'envers.
Moi, j'anticipe quand même, mais je les reconnais pas, j'anticipe.
Tu restes bloqué sur un.
Mais non, pas du tout. Non. Je tente ma chance. Je joue, quoi.
Oui, mais je trouve que tu l'as pas.
Mais là, non. Mais j'aurais pas reconnu quand même. Hein.
Qui chante ça?
Tom, ça sent le Sardou, non?
Non.
Ça fait très Noël.
Exactement. Les bons moments, Charles Aznavour.
Bien sûr, le bonheur est.
Je m'excuse. Non. Je me retiens.
Pour résumer, Tanguy trouve Bon Jovi, Morgane, Katy Perry et Daniel Aznavour. Ok?
Voilà.
On a fait le tour?
Ça résume nos personnalités.
Tout.
Il a aussi trouvé la compagnie créole, Tanguy.
Tout se joue.
On est dur.
Tout se joue maintenant. Pour l'instant, c'est Tanguy qui est en tête.
Morgane, oui, Tanguy, c'est.
Vas-y. C'est si bon.
Dans la cuisine.
C'est Daniel qui l'a. C'est Daniel. Avec ce bon.
Ça se met comment? Mais tu mets pas Francky Vincent. C'est bon Francky. C'est quoi?
Vas-y, Francky, c'est bon.
Fruit de la passion.
Mais non. Il n'y a pas bon, il n'y a pas du tout bon.
Si, un titre. Bah vas-y, Francky, c'est bon.
C'est Fruit de la passion.
C'est bon quand le titre c'est Fruit de la passion et le mec c'est Francky Vincent. J'y peux rien. Il n'y a rien dans bon.
On joue avec celui-là.
Victoire de Daniel et merci d'accueillir. Mince, chef Thierry.
Avec Nagui.
Soyez le bienvenu Thierry. D'abord la première question, c'est en effet comment allez-vous? On s'intéresse à la santé dans votre revue, la nourriture est le premier remède. Allez-vous bien?
Je vais très bien, merci. J'espère que
vous tous ici.
Si vous saviez dans quel état on est, si vous saviez.
Et ce que j'aime bien, c'est que vous êtes plein de sagesse, vous êtes là, vous parlez doucement, vous demandez si tout le monde va bien également et tout, c'est très reposant.
Ça te prend exemple.
Ah ouais. Mais je me reconnais un peu en ça, il n'y a que moi qui suis généreux
non,
ici.
Non. Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Comment est née l'idée de cette revue? Je ne sais pas comment vous la baptisez, d'ailleurs, c'est un magazine,
oui, c'est une revue. Non, c'est né pendant le confinement avec Romain Jubert. On écrivait 2-3 trucs, on s'insurgeait sur pas mal de choses. Et puis, à un moment donné, on a trouvé qu'il y avait beaucoup de monde dans les cuisines. Depuis une trentaine d'années maintenant, on voit de plus en plus de gens dans les cuisines qui parlent que de recettes finalement.
Encore plus pendant le confinement où là, sur les réseaux sociaux, ça a foisonné.
Et très peu de ce qu'il y a autour de la cuisine, c'est-à-dire toute l'alimentation, toute la géographie de la gastronomie, tout l'impact social et l'impact environnemental qu'on peut trouver dans le fait de faire la cuisine. Et on s'est dit, il faut écrire plus largement sur ce qui se passe sur cette planète gastronomique.
Mais alors, écrire dans quel but? Dans le but d'éduquer, dans le but de transmettre, d'informer?
Dans le but d'éduquer, oui, je pense. Enfin, au moins de partager nos connaissances et compétences à chacun. Et puis de se dire, et si on arrêtait d'être des consommateurs et qu'on devienne des mangeurs? C'est la grande phrase de...
Vous dites même que le pouvoir est au consommateur, oui.
Bien sûr, mais...
Phrase de qui, pardon, consommateur-mangeur, c'est...
Claude Fischler, c'est Claude Fischler qui, le sociologue, qui travaille beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut arrêter de consommer. Parce qu'à force de consommer, on a consumé cette planète. Et de se dire, et si je regardais ce que je mange, pourquoi je me restaure? Et qu'est-ce que manger veut dire? Et tout ça ramener, en fait, de s'éduquer, d'apprendre ce que c'est qu'un terroir, apprendre ce que c'est qu'un produit, et qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, son impact social et son impact environnemental. Et puis on s'est aperçu que très rapidement on était dans l'actualité où on allait encore nous laisser croire que l'alimentation était une variable d'ajustement. Or que pas du tout, elle a un impact sur notre santé, elle a un impact sur notre vie, et qu'il fallait la regarder autrement aujourd'hui.
Oui.
Et cette théorie du low cost, cette espèce d'économie du renoncement qu'on connaît depuis 70 ans maintenant, eh bien a oxydé notre société, pas seulement société française, de façon assez planétaire.
Ouais, c'est low cost et big profit, quoi. C'est-à-dire que c'est...
Le low cost, c'est qu'on vous laisse croire...
On essaye de vendre le moins cher possible pour pousser à la consommation, mais il y a des marges infernales qui sont réalisées par ceux qui proposent
le low cost. Et je pense que le côté cynique du low cost, c'est de dire « je fais ça pour les gens modestes ». Ça, c'est cynique. Et de dire que cette économie du renoncement profiterait aux plus modestes, or qu'elle profite aux plus riches.
Mais c'est intéressant de déconstruire cette idée, parce qu'on aurait tendance, en effet, à penser que si c'est pas très très cher, ça va être accessible au plus grand nombre. Et en effet, l'idée, sur le papier, en tout cas, elle est intéressante, de se dire qu'on puisse tous avoir accès à la même chose. Sauf que c'est pas vrai.
C'est pas vrai du tout, et on a fini par construire une économie, une alimentation à deux vitesses. Une qui serait bio pour les gens qui en ont les moyens, et puis une qui serait assez médiocre pour ceux qui ne l'auraient pas, en leur disant « ne vous plaignez pas, renoncez à la qualité, en échange de quoi je vous fais un prix intéressant ».
Sauf que c'est pas dit clairement, c'est-à-dire quand on parle de ces magasins low cost, non, parce qu'il y a encore des gens qui...
T'imagines, c'est vendeur.
Ouais, mais...
C'est pas cher, mais c'est pas bon.
Mais oui, mais ça peut expliquer une partie de l'erreur, du fait qu'on s'enfonce dans cette erreur-là, c'est que les gens n'ont pas forcément conscience que le produit qu'ils achètent, à bas prix, n'est pas bon pour leur santé et n'est pas bon pour tout l'écosystème.
Moi, j'irai plus loin. C'est que celui qui vend à low cost fait plus de marge que celui qui vend le bon produit cher. Et le paradoxe, c'est que tu gagnes plus d'argent. Tu gagnes plus d'argent à faire des crêpes pourries ou surgelées ou des mauvais croque-monsieur que d'être dans un étoilé. La marge n'est pas du tout la même.
Moi, ce que je regarde,
tu gagnes plus d'argent à faire des crêpes dans la rue qu'avoir un restaurant étoilé.
Ça, c'est économiquement parlant, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le déclic des gens. Non, mais c'est pourquoi les gens vont acheter dans des endroits dits low cost. C'est ça qui est intéressant. C'est que s'ils avaient vraiment conscience, et si on leur disait véritablement que ce produit-là n'est pas équivalent à un produit qui vaut 50 centimes d'euros plus cher, peut-être que les choses se feraient autrement.
Tu réfléchis pas comme ça.
Moi, je crois que c'est ça qu'il faut déjouer.
Il aura un impact sur la santé. Et vous savez, c'est dans le monde de l'alimentation, vous avez deux variables d'ajustement qui sont le coût matière première et le coût du travail. Il faut arrêter avec ces variables sur l'alimentation. C'est mortifère.
Non, mais pour en revenir aux consommateurs, le réflexe, c'est de se dire, est-ce que j'ai les moyens de payer ça ou les moyens de payer ça? Personne ne se pose la question en achetant un produit de est-ce que c'est bon ou pas pour ma santé au moment où j'achète.
Justement, c'est ça qu'il faut réintégrer.
Mais je l'entends, j'entends ce propos. Effectivement, aujourd'hui, il y a 8 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire.
Ouais.
Mais c'est parce qu'on a cru à cette théorie du low cost il y a 70 ans qu'aujourd'hui, notre société est auto-oxydée.
Entièrement d'accord. Et qu'on est allé vers aussi l'industrialisation de la nourriture plutôt que...
Et pas chez nous.
Donc voilà. La baguette c'est-à-dire à 27 centimes, ça vous rend fou, quoi?
Ça me rend fou, pas pour montrer du doigt des enseignes qui pratiqueraient ça, mais ça me rend fou parce que on laisse croire encore une fois que cette théorie du low cost profiterait aux plus modestes, et c'est dans ces plus modestes qu'il y a les plus fragiles en termes d'alimentation.
Mmh. Alexis ?
Après, je pense que la communication aussi a son rôle. On se souvient de Jean-Pierre Coff qui avait donc prêté son nom pour Leader Price, qui est une chaîne hard discount. Et puis on voit également des grands chefs mettre leur nom sur des produits. Alors des marques un peu plus haut de gamme, on va dire, que du low cost, mais quand même, qui viennent dans les supermarchés, et au final, ça peut laisser entendre que dans les supermarchés, on trouve des bons produits.
Mais on trouve des bons produits dans les supermarchés.
Oui, mais par voie de conséquence, il y a des gens qui peuvent se dire, bon, ben moi, j'achète un peu moins bien, mais c'est quand même dans le rayon où on voit Thierry Marx, où on voit Robuchon, etc.
Ça brouille le message. Alors là, je peux vous répondre là-dessus. Moi, j'ai jamais tiré à boulet rouge sur ce qu'on appelle la grande distribution. Bien au contraire, j'ai trouvé que la grande distribution qui était dans le hard discount dans les années 50 est passée au smart discount en ramenant du légume, en parlant de circuit court. Je trouve que l'histoire de la baguette est une mauvaise rechute.
Mmh.
Vraiment une mauvaise rechute. Mais si on regarde bien ce qui avait été évoqué sur le Covid et le monde d'après, ben, il n'y a pas de monde d'après. C'est-à-dire qu'on s'est dit, non, ça fonctionnait le truc du coût du low cost et du tout pas cher, on va revenir au tout pas cher. Et c'est ça qui est troublant, c'est de dire, profitons de ce Covid, finalement, de cette date historique, pour dire, non, remettons à plat l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est un produit de consommation comme les autres? C'est juste la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Mais que des chefs travaillent, et c'est mon cas, j'ai pas honte de le dire, de travailler des fois pour la grande distribution, quand la grande distribution, en se mettant autour d'une table, discute. Mais en laissant croire que en écrasant les marges de l'agriculture depuis 70 ans, on profite aux consommateurs. Ça, c'est quelque chose qu'il faut plus dire.
On est tous d'accord.
Oui. On l'a peut-être fait au XXe siècle, mais on est dans le XXIe.
Thierry Marx, avec cette revue, avec votre école, les restaurants, on va essayer de survoler, je ne sais pas si on aura le temps d'ailleurs, de parler de tout ce que vous faites autour de la nourriture et autour de la santé. Avec vous, on est ravis de vous accueillir. C'est pas le cas de tout le monde ici. Il y a Morgane Cadignan. Désolé Thierry. Vous savez tout le respect que j'ai pour vous Thierry, et pourtant Morgane Cadignan ne vous aime pas.
Non mais Thierry Marx, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai pas envie de vous voir autour de cette table. Moi j'ai envie de vous croiser dans un endroit avec un fourneau pas loin, quoi. Non mais voir des grands cuisiniers pour parler d'un magazine. Alors un livre ça se dévore, mais un magazine ça se mange pas. J'ai faim Thierry. Franchement chacun sa place, quoi. Quand on reçoit Tahar Benjelloun, il nous fait pas une omelette, merde. Thierry Marx super, mais je veux boire ses sauces, moi, pas ses paroles. On peut pas trouver une petite poêle et un briquet qui nous improvise un petit truc là, vite fait? Thierry, j'ai un sachet de thé, une pastille pour la gorge. Après vous faites comme vous voulez, je suis pas là pour mettre les gens en compétition, mais la dernière fois avec ça, Michala qui nous a fait un dessert glacé de réveillon. Vraiment, c'est comme vous voulez. Après, je vais me calmer parce que Thierry, vous êtes quand même ceinture noire de judo, et c'est pratique dès qu'il y a quelqu'un qui remet en question l'assaisonnement d'une papillote, bam, un petit yokodori pour remettre tout le monde d'accord. Après, vous regardez la personne à terre et vous lui dites, et ça, c'était assez salé, connard. Franchement, non, mais physiquement, vous êtes à une nuance de bronzage d'être Dwayne Johnson The Rock. Donc, moi, franchement, le film où vous êtes en jet ski autour du globe pour traquer un commentateur anonyme qui vous a démonté sur TripAdvisor, moi je signe pour la trilogie de la toque de la vengeance. Bon, c'est un magazine. Alors le magazine s'appelle Bon, j'ai pas dit deux fois Bon. Bon, c'est un autre magazine. Bon, j'ai mal à la tête. Ah, mais bon, votre magazine à vous, il parle de ce qui rassemble autour d'une table. Bah là, cette table ici, dans ce studio, ce qui nous rassemble, c'est l'avarice et le besoin d'exister, faut être honnête. Mais c'est vrai que pour le reste des gens, en général, il y a des trucs au milieu de la table. Une planche de Ouija, quand t'as oublié de demander l'Iban de l'assurance vie à ton grand-père, ou plus souvent de la nourriture, en sauce, crue, cuite, en papillote, légère ou grasse, tout ce qui en France fait qu'on va en parler en la mangeant. Personne s'est rendu compte, mais j'ai fait un petit départ de phrase à la Laurent Mariotte, là. En sauce, crue, cuite, en papillote, la Saint-Jacques n'en finit pas de nous étonner. Tentez de gagner 12 millions de roubles en répondant à la question suivante. Qu'est-ce qui n'en finit pas de nous étonner? La Saint-Jacques ou Valérie Pécresse? Non mais, c'est manger c'est et parler de ce qu'on mange, il n'y a rien de plus français. Il n'y a rien de plus français que de regarder quelqu'un apporter une casserole à table et dire, alors, qu'est-ce que tu nous as fait, raconte un peu, et de voir l'autre rester debout et se lancer dans ni plus ni moins qu'une thèse qui commence par « Alors, j'ai revisité », pour dire qu'il a mis une sauce agrume sur une endive. T'as pas revisité, Jean-Jacques, t'as juste oublié de racheter du balsamique. Mais bon, c'est ça qui est beau. En cuisine, ça nous rassemble, ça aide les plus taiseux d'entre nous à nous dire qu'ils nous aiment en essayant d'atteindre notre cœur en passant par nos estomacs. Ça transforme des chefs de famille qui savent pas cuire du riz en grands chefs parce qu'ils ont collé leur nom derrière une façon de rater une omelette. Ah, les œufs brouillés à la Jean-Yves, ce petit goût de coquille inimitable. Mais l'important, c'est que Jean-Yves, quand il essaie de vous empoisonner, en fait, il veut surtout vous faire plaisir et vous dire qu'il vous aime. En revanche, Jean-Yves, achète bon le magazine, tu vas voir, il y a plein de trucs dedans, sauf des coquilles.
Merci.
Et Morgane, si on veut te voir, c'est ce soir à Marseille et demain aussi.
Exactement.
À Marseille.
Ouais, il faut payer pour l'avoir.
Il y en a d'autres. Et alors ?
Bon, ce magazine, on va partir de l'essentiel. Le titre, parce que la définition du bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour ceux qui fabriquent, préparent ou cultivent. Mais la définition du bon, ce qui est bon pour vous ne l'est pas forcément pour moi, ce que moi je trouve bon ne l'est pas forcément pour Leïla et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est quand même le point de départ de toutes les discussions autour d'une table, le bon.
Oui, alors le bon, il y a beaucoup de diversité dans le bon et ça je le reconnais, mais dans bon c'est de mesurer la qualité du produit dans son impact social et son impact environnemental.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a des produits que je ne peux pas aimer, par exemple, je sais pas, l'endive, peut-être, encore bien que j'aime les endives, et de me dire mais cette endive elle est cultivée correctement sur un sol de qualité et elle est payée à son juste prix à un producteur, en échange de quoi il s'assure que cette endive, d'une façon analytique, c'est-à-dire quand on l'analyse, elle est bonne pour le goût et la santé.
J'ai le sentiment que votre combat est noble, mais il est perdu d'avance. Comment voulez-vous expliquer à des faiseurs d'argent sur la nourriture qu'il va falloir qu'ils en gagnent moins pour rééquilibrer la justesse du propos et l'équilibre entre la fabrication ou la culture et la consommation?
Personnellement, je fais une proposition de passer du consommateur au mangeur. C'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi je mange? Et puis, se dire que cette alimentation, dans son, le fait de consommer, de mieux manger, aura moins d'impact sur la santé de nos concitoyens. Et quant à la croissance.
Oui, mais vous n'allez pas faire la police du bon goût ou la police
du
bon.
Non, mais pas du tout. C'est même pas la question. C'est de dire, est-ce que c'est toujours aussi intéressant de faire du profit, d'énormes marges, ou de retourner si on veut. Parce qu'on parle beaucoup d'environnement.
Mais vous n'êtes pas naïf. Celui qui fait du profit, il va vous dire évidemment que je suis content de faire du profit. Il va pas vous dire, je vais en faire moins pour que ça soit bon.
J'ai pas vu, on peut être très très riche aux îles Caïmans et plus rien avoir autour de cette planète. Je veux dire, et que les îles Caïmans, il se passera plus rien. Donc à un moment donné, je pense, j'évoque ça simplement, de dire est-ce qu'il faut pas faire de la croissance en conscience. Je suis pas un apôtre de la décroissance économique, bien au contraire, je crois à la croissance économique, mais une croissance en conscience, une croissance qui a un impact social et un impact environnemental. Je parle juste de l'alimentation, je suis pas en train de parler d'autre chose.
Donc c'est aux consommateurs et donc aux électeurs et à ceux qui ont le pouvoir du porte-monnaie, quelle que soit la somme qu'il y ait dans ce porte-monnaie, décider.
Bien sûr. Est-ce que c'est... J'étais dans ma voiture l'autre jour, j'entends une pub pour... je prends ma voiture pour faire 600 km, ça m'arrive. J'entends une pub, 3 avocats, 1,50 €.
Faut y aller.
Est-ce que ça a du sens?
Intéressant.
Sur l'impact social, pas vraiment, ils sont pas mûrs, ils arrivent. Et sur l'impact environnemental, c'est catastrophique. Cette surconsommation alimentaire consommer la planète. Ça, c'est factuel.
Vous dites que certains politiques disent en ce moment, c'est que le vrai sujet de l'élection présidentielle et du besoin des électeurs, c'est le pouvoir d'achat. C'est pas des problèmes ni d'immigration, ni de vaccins ou autres. C'est avant tout le pouvoir d'achat.
Je l'entends. Et le pouvoir d'achat ne peut pas forcément passer uniquement par cette variable d'ajustement qui serait l'alimentation. Parce qu'elle vous coûte plus cher en termes de santé publique ensuite.
Est-ce que vous avez déjà entendu une question posée par quelqu'un qui est dans votre magazine? Parce que Tom Villa, tu es dans le magazine.
Oui, je l'ai découvert ce matin. Donc,
tu savais pas que t'étais dans le magazine?
Non, pas dans ce numéro. En vrai, j'ai fait l'interview il y a 2 ans et demi. Et je...
Avant le confinement.
Page 54.
Page 54, exactement, c'est mon chiffre. La petite question aussi, est-ce que l'industrie n'a pas fait trop de produits transformés? Est-ce qu'on ne vend pas trop de petits hachis parmentiers, de choses en barquette et que finalement, j'ai l'impression
déjà cuit, déjà consommé.
Là, vous avez déjà parfaitement raison. C'est-à-dire que l'industrialisation, l'industrialisation de la cuisine, c'est les années 70. On va copier le modèle américain. Mm. On va copier le modèle américain sur la grande distribution. Ça, c'est l'après-guerre. Et puis après, on va copier ce modèle d'industrialisation. Pourquoi ? Pour faire du revenu. C'est-à-dire qu'un petit restaurant qui fonctionne, finalement, a un impact social extrêmement réduit. Et s'ils veulent gagner de l'argent, il faut qu'ils multiplient les choses. Donc on a industrialisé ce qu'on pouvait industrialiser. Alors, quand vous regardez le modèle américain, si c'est pas industrialisable, bah, vous faites pas. Le burger a été industrialisable, on l'a industrialisé énormément. Le donut, enfin, ce que vous voulez, ça a été industrialisé. Nous, on s'est un peu copié là-dessus, mais on a quand même préservé les cuisines d'auteur, mais on a été quand même très impacté, effectivement, par l'industrialisation. Encore une fois, la théorie du low cost, mieux manger, moins cuisiner, et puis être dépendant, finalement, de gens qui produisait pour
nous. Et pardon, et le temps aussi. J'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire les courses, j'ai pas le temps de préparer. J'appelle, je me fais livrer, c'est déjà cuit, j'ai plus qu'à faire le micro en 2 minutes et basta.
Tout à fait, j'entends.
Non, mais je veux dire, c'est un.
Mais quand je regarde mon smartphone, je me dis, voilà, j'ai vachement passé de temps sur mon smartphone. En gros, moi, je vous fais un menu. Enfin, je suis professionnel, donc ça ressemble à rien à ce que je vais dire, mais quand je travaille, par exemple, quand je travaille au Resto du Cœur, on apprenait à manger avec pas grand-chose et une cafetière, et en 30 minutes, on avait fait à manger pour 4 personnes. Et c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut reprendre conscience de l'individu que l'on est et alors, pourquoi on se restaure.
C'est un faux problème, sauf que, vous l'avez dit, vous êtes un professionnel, vous avez le savoir-faire, et justement, c'est par le savoir aussi que vous pensez que cela peut passer, c'est-à-dire dans l'éducation, en donnant des cours dans les écoles, des cours de cuisine.
Alors, pour moi, c'est l'essentiel, dès le cours préparatoire, de remettre au cœur de la formation le cours de cuisine, et l'initiation au sport.
Ce qui existait il y a
quelques... multisport. Ouais. C'est-à-dire que qu'on peut parler d'alimentation, mais si on ne parle pas de sédentarité, c'est un vrai problème. Donc l'initiation à la cuisine. Dans un cours de cuisine, je vous fais ça court, mais il y a un cours d'histoire, il y a un cours de géographie, il y a un cours d'arithmétique, il y a un cours de français, et il y a un cours d'éducation civique. C'est-à-dire que vous allez comprendre pourquoi l'autre ne mange pas pareil.
Vous voulez dire que ces 5 valeurs rentrent dans un cours de cuisine?
Exactement.
Ce que vous voulez dire, d'accord.
Exactement. Assis autour d'une table, tiens, tu ne manges pas tel ou tel produit, tiens, tu ne manges pas ces jours-ci, pourquoi? Ben parce que c'est... Et j'explique les choses. Vous voyez que quand vous commencez ça à l'âge de 6 ans, eh bien ça va... C'est un peu la stratégie du sachet de thé. Vous savez, ça diffuse, et puis quand ça devient amer, il faut retirer. Un cours de cuisine d'une heure,
c'est ce que vous écrivez dans la revue, en effet. Mais pour en revenir au problème, pour vous, le problème fondamental, c'est l'éducation, c'est de comprendre... Pourquoi ? D'abord, on aura toujours besoin de manger, ça c'est ancestral, c'est un réflexe, et on peut pas faire autrement, sinon on meurt. Mais le mieux manger passe par savoir ce que l'on consomme et d'où ça vient. Ça passerait pas aussi par un peu moins manger ? On n'a pas le sentiment finalement qu'on nous pousse là aussi à grignoter, à manger, et que finalement on finit par se dilater, par avoir faim, parce qu'on a un peu plus mangé la veille, et c'est un truc sans fin qui arrive, et vous le dites, le paradoxe, c'est qu'on en arrive à une surpopulation, et à une population aussi d'obèses. Alors, on est dans les deux extrêmes, il y a des gens qui meurent de faim sur cette planète, et d'autres qui sont en surpoids.
Mais exactement ça, c'est manger mieux, manger moins. C'est-à-dire que moins consommer aussi la planète, mais c'est dans, effectivement, manger mieux et manger moins, et comprendre. Il y a plein d'éléments qui nous prouvent qu'on a raison là-dessus. Et encore une fois, c'est, il faut sortir du mécanisme de la surconsommation. Et vous savez, ça me fait penser au film de Ruffio. Quand vous voyez de la théorie du low cost dans l'alimentation, c'est le dernier petit sou. Il voulait encore le dernier petit sou. Bah, c'est ça, les petites baguettes pas chères, les petits produits low cost, bah, c'est d'aller gratter encore plus de petits sous chez celui qui en a pas beaucoup.
C'est-à-dire qu'il faudra arrêter la publicité, il faudra arrêter les lobbies aussi, parce que l'alimentation, c'est quand même des lobbies. On a tous vu un certain nombre de documentaires, que ce soit sur des plateformes ou pas.
Le sucre aussi,
les produits laitiers, il y a plein de choses, il y a plein de révélations par rapport à la santé, où on se rend bien compte que c'est pas si simple que ça, mais pourtant, on parle d'éducation, depuis le plus jeune âge, on a intégré avez l'idée qu'il faut boire du lait, qu'il faut
pas forcément,
prendre un petit déjeuner.
Mais l'après-guerre, c'était ça.
Enfant, c'est ça.
Enfant, c'était les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et voilà, c'est ça.
Or, c'est pas tout à fait juste. Mais là où vous avez raison, c'est de dire, on vient avoir un traceur très fort qu'est la Covid. C'est vraiment historique dans notre parcours de vie. On se dit, et si on s'asseyait? Et plutôt que de chercher des coupables, nous cherchons des solutions. L'idée de ce magazine, il est là. C'est pas de dire, tu as tort, tu as raison. C'est pas de dire, la grande distribution, pas bien, l'industrie. L'industrie, d'ailleurs, l'industrie est peut-être l'industrie et le capitalisme en général est peut-être le plus darwinisme qu'on connaît. Il s'adapte. Il faut devenir vert, on devient vert, et c'est nous qui posons les conditions du green label. Enfin, ça devient complètement
fou. Il faut des voitures électriques, ils les fabriquent.
Exactement. Et même si on ne sait plus quoi faire des batteries. Enfin, je veux dire, tout devient complètement fou. C'est de l'adaptabilité économique. Mais si on parle d'alimentation, ça a tellement un impact fort sur l'environnement et sur la santé de nos concitoyens. D'ailleurs, les trois rapports qui ont été faits, un par l'université de Séoul, l'autre par l'université de Tokyo et le dernier par l'INSERM, Pierre Veil, sur l'alimentation et les conséquences sur la Covid.
Pierre Veil qui est dans
votre Pierre est formidable, c'est bleu blanc cœur. C'est vraiment une meilleure alimentation pour tout le monde, pas une alimentation à deux vitesses.
Daniel Morin.
Alors c'est très sensé ce que vous dites, mais c'est vraiment, vraiment dans un monde idéal, parce que vu tout ce qui nous entoure, Lila le disait, on est bombardé par la publicité. Aussi vous disiez, il faut prendre le temps de plus cuisiner. À ce moment-là, on remet en question toutes les plateformes qui nous servent des séries, qui enchaînent les épisodes sans qu'on demande rien, et du coup, on n'a plus le temps d'aller en cuisine. Enfin, on aurait le temps, mais là, on est scotché à nos canapés.
Il y a un bouton pause.
Il y a un bouton pause, mais voilà, on alimente, on suralimente, et c'est même plus de l'alimentation, c'est de la perfusion qu'on nous met.
Pour aller dans ce sens aussi, il faut aussi qu'on pense à ceux qui produisent, qui cultivent, qui travaillent et dont on a besoin, d'ailleurs de plus en plus, et d'arrêter le côté agriculture intensif et intensifier plutôt les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'agriculteurs pour que l'agriculture soit moins intensive.
Oui, plus d'agriculteurs. D'abord, il va y avoir une vraie transition avec ceux qui vont partir à la retraite et ceux qui doivent revenir. Et puis,
on en a besoin, mais il n'est pas sûr là que les jeunes aient envie de se mettre.
Il y a de la demande, bizarrement. Il faut les accompagner. Et puis, dire, il faut arrêter d'écraser leurs marges en disant, produisez moins, produisez mieux. C'est tout le travail de ce qu'a fait Bleu-Blanc-Cœur. Bleu-Blanc-Cœur, ça doit être 6 000 éleveurs, 4 000 producteurs. C'est des gens qui ont travaillé sur les sols, c'est des gens qui ont travaillé sur l'alimentation du bétail, le bien-être animal, pour avoir une santé globale de ce que nous mangeons. Ils l'ont fait, mais c'est 20 ans de travail. Voilà, quand je dis oui, pause, trouvons des solutions plutôt que des coupables, et l'alimentation... D'ailleurs, ce qui me surprend, moi, j'écoute, comme chaque citoyen, les propositions des gens qui se présentent à la présidentielle. Il n'y a rien sur l'alimentation.
Ni sur l'écologie, ni sur le respect de la planète.
L'écologie, aujourd'hui, tout le monde a compris que l'écologie n'était pas une variable d'ajustement. Mais sur l'alimentation et l'impact social, l'impact environnemental de l'alimentation, il n'y a rien. Et encore, remercions la France, parce que en France, nous avons, et dans quelques pays quand même, une cuisine vraiment d'auteur. Il y a vraiment des gens qui défendent de vraies valeurs dans nos assiettes.
On continue de parler avec Thierry jusqu'à 12h30 de la nourriture, de ce qui est bon finalement pour le corps et pour l'esprit. Voici, bon pour l'esprit également, Monsieur Alexis.
Et bonjour à tous.
Et bonjour à toi.
Alors, ça va bien, vous allez bien? Alors, en ce moment, je mange beaucoup. Pas parce que j'ai spécialement faim, mais parce que je suis en tournée. Et je sais pas pourquoi, mais les gens qui m'accueillent ont beaucoup d'attention culinaire à mon égard. Et plus l'heure du spectacle approche, plus j'ai le trac et plus je bouffe. Les gens sont là, dis donc, il a bon appétit. Ben mettez-en moins dans les loges et je mangerai moins, quoi. Après, je suis lourd, j'ai des relents sur scène. Les gens rient, pensent que ça fait partie du show. Comme si sur mon texte, j'avais écrit « Petit Rot ». Le week-end dernier, j'étais en Bretagne. Et en Bretagne, les loges sont très bien garnies. Je dis pas ça pour foutre la pression aux salles qui vont m'accueillir dans l'Hérault ce week-end ou à Aix-en-Provence dans 15 jours, mais les Bretons, ils passent la barre très très haut, quoi. Alors dans le détail, j'ai eu des crêpes, la base, des madeleines, du caramel au beurre salé, de l'andouille que j'ai roulée dans ma chemise. Ben celle-ci, depuis elle sent l'andouille, j'aime bien. J'ai eu du cidre aussi, de la bière, du far breton, des galettes bretonnes, mais en grosse quantité, quoi. Donc j'ai pas compris, j'ai dit c'est trop. Ils m'ont dit non mais désolé, il y a un bingo demain dans la salle et on a mis les lots dans votre loge. Toujours sympa de jouer dans les écoles primaires. Alors je vous raconte ça parce que l'ambiance dans les salles où j'ai joué contrastait avec ce qui se passait ce week-end en Bretagne. Parce que ce week-end en Bretagne, les éleveurs de porc sont sortis dans la rue pour protester contre la hausse de leurs charges et la baisse du prix du porc au kilo, qui fait qu'à chaque bête qui part à l'abattoir, ils perdent de l'argent. De 15 à 20 000 euros par exploitation et par mois, selon West France. D'où les opérations coup de poing retransmises à la télé, où on les a vus bloquer les accès des magasins Leclerc avec leurs tracteurs. Et c'est là qu'on voit que les tracteurs, c'est quand même pratique pour les blocages, hein, plus que les voiturettes de golf, par exemple. Et là, en tout cas, je voudrais, à travers cette chronique, apporter mon soutien à Michel-Édouard Leclerc, qui a perdu 2 jours de chiffre d'affaires à cause des paysans, alors qu'il se bat pour proposer des prix toujours plus bas, alors qu'il se démène pour qu'on puisse avoir le choix entre 30 marques de jambon rose comme des barbes à papa, étalées sur 20 mètres de linéaire. Et il est désigné comme le grand méchant loup, alors qu'il va chercher dans d'autres pays des produits moins chers que ceux qu'on produit en France, au nom de la défense de notre pouvoir d'achat. Mais on devrait lui dire merci, non? Il a même plafonné le prix de la baguette à 29 centimes. Alors quoi, ils en mangent pas de la baguette, les agriculteurs? Jamais contents, ceux-là. Moi, je trouve ça fou, en tout cas, que les agriculteurs aient des difficultés financières. C'est même aberrant quand on y pense. Il y a toujours plus de bouches à nourrir, et eux, ils produisent de la nourriture. L'équation, elle est simple, ils devraient s'en sortir. Mais c'est pas le cas, et on leur promet quoi? Des aides. Mais les aides, ça change pas le fond du problème. C'est comme quand les joueurs de foot se font les croisés en district et que le soigneur leur met de la bombe de froid, une tape sur la nuque. En même temps, le ministre de l'Agriculture, il s'appelle De Normandie et il est pas né en Normandie. Comment tu veux lui faire confiance? Et le problème, c'est que les barrages devant les supermarchés, on voit ça tous les ans. Donc nous, ça nous fait plus rien, on est juste là. Bon, apparemment, ce soir, c'est pizza, quoi. Comme si c'était uniquement un problème entre les agriculteurs et la grande distribution qui nous concernait pas, nous aussi. En fait, j'ai l'impression qu'en France, on a de l'affection pour les paysans qui font du bio ou du circuit court, mais ces agriculteurs-là, ils représentent quoi? 15% des agriculteurs. Et les 85% restants, ils sont montrés du doigt, on les accuse de polluer, notamment comme s'ils polluaient par plaisir. Tu fais quoi, Gérard? Hier, j'ai fait les maïs et ce matin, je vais verser des nitrates dans la rivière. Alors maintenant, il y a ceux qui se prennent pour Mère Teresa parce qu'ils mangent local ou bio, mais qui quand même kiffent le guacamole maison, préparé avec des avocats du Pérou, conditionné dans des barquettes en plastique. Il y a ceux qui disent il faut soutenir les éleveurs, mais ceux qui produisent de la bonne viande. Alors ça, c'est vrai. Mais hier, j'achète 2 beefsteaks dans une boucherie, 14 euros. Mais qui peut se payer ça? Et le boucher me dit, avec ceci, 1 kilo de rien et un pansement, parce que tu m'as saigné, là, en fait. Voilà, alors, est-ce que j'ai une solution pour ça? Eh ben oui, pour une fois, j'en ai une.
Ah, enfin.
Vous connaissez le Nutri-Score?
Oui.
C'est un petit symbole obligatoire maintenant qui te dit si le produit que tu t'apprêtes à acheter a de bonne ou de mauvaise qualité nutritionnelle.
Exact.
Ben moi j'aime bien les petits gâteaux un peu gras, genre les cookies ou les brownies. Mais maintenant quand je vois Nutri-Score E, je peux plus le dire, je mange de la merde mais je savais pas. Du coup j'en achète moins. Maintenant je prends des Nutri-Score A et je rajoute du beurre dessus, qui lui-même est Nutri-Score E. Du coup ça fait Nutri-Score C.
Ouais.
C comme c'est pas mal. Donc faudrait un équivalent au Nutri-Score pour nous indiquer si le produit est solidaire avec les agriculteurs français. Le Soliscore par exemple. Obligatoire lui aussi. Et quand tu prends un Soliscore A, tu permets aux agriculteurs de mettre du beurre Nutri-Score E dans leurs épinards Nutri-Score A. Ça fait A plus E plus A divisé par 3, ça fait Nutri-Score à peu près B. B comme bien. Et avec bien en plus, tu gagnes la primaire populaire à gauche. Allez, préparez les paniers garnis dans le sud. J'arrive et j'ai faim.
Merci.
Bravo.
Et Alexis, on se retrouve justement donc à Aix-en-Provence les 23 et 24 février en espérant que les loges soient garnies.
Sans en rajouter sur toute l'ironie et l'humour d'Alexis Le Rossignol, c'est vrai qu'on a le sentiment que on sait plus quoi faire, on sait plus où aller et que d'un coup on est coupable. Et là, on est bien placé puisque on est à France Inter, on est des bobos nantis, on a aucun problème pour remplir notre panier lorsque l'on fait nos courses. Donc j'entends déjà les râleurs et les haters dire ouais, c'est facile de tenir ce discours-là, mais c'est vrai qu'à un moment on se dit j'achète un avocat, il y a une barquette en plastique, je suis coupable. L'avocat d'où il vient, j'en sais rien.
Toutes les informations sont pas toujours présentes d'ailleurs,
voilà,
c'est ça hein, en fait.
En fait,
faut mener l'enquête quand tu parles du Nitro Score, c'est ce qui est intéressant, c'est les lettres. On se dit, bon, ça m'évite de passer 15 plombs à lire une étiquette qui n'est pas forcément facile à comprendre. C'est pas simple tout ça.
Alors, si je peux me permettre sur les.
Non, mais j'ai pas fini, moi je vais rajouter. Non, mais je repense au porc aussi, et vous en parlez dans votre magazine aussi, la qualité de cet animal. Et vous parlez aussi du bien-être animal et de la souffrance animale et de cet animal qui, rapporte, qui est bon, qui est goûteux, et donc bah on l'engraisse et puis on va lui rajouter des antibiotiques, et on va lui rajouter du soja sous OGM, et puis alors pour planter le soja, on va déforester aussi les trois quarts de la planète, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit qu'il y a une spirale à laquelle on ne peut rien. Vous dites, bah chacun est responsable avec sa manière de consommer, mais on n'est même plus au niveau du colibri là, on est au niveau de l'acarien qui essaye de modifier.
Mais genre, vraiment, ADN de mammouth. Ça me touche d'entendre ça parce que je porte jamais de jugement sur la consommation des personnes, mais j'ai fait partie. Moi, je suis pas né dans un coffre-fort, je viens de des quartiers, et dans le quartier, la première chose qu'on avait arrivée, c'est la grande distribution, parce qu'il n'y avait rien d'autre, et on était très contents d'avoir la grande distribution.
Et
finalement, il y a encore à peine 10 ans, j'étais un très très bon consommateur de l'enseigne que vous avez nommée. Et il y a des 10 du mois où je me demandais si on allait prendre ma carte bancaire.
C'est ça.
Donc, j'ai pas de souci avec ça.
Et vous avez raison de pas oublier ça aussi, parce qu'on peut pas non plus accuser ceux qui font ça ou ceux qui consomment comme ça d'être responsables de tous les maux de la planète.
Sûr.
Parce
surtout
que leur réflexe, c'est pas de dire qu'est-ce qui est bon pour la planète ou pour la santé. C'est qu'est-ce qui me reste pour bouffer.
La seule chose que j'évoque, c'est d'abord d'essayer de protéger leur santé. Oui. C'est une première chose. Mais encore une fois, il n'est pas question de chercher des coupables. Il est plutôt question de chercher des solutions. Et la solution, pour moi, elle est dans l'éducation et l'éducation des petits. Et on aura un résultat dans 20 ans. C'est pas grave. Mais on aura fait des mangeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un tournant, et je pense que l'éducation nationale devrait se saisir de ça pour se dire, oui, on va le faire. Parce que pour tous les piliers que j'ai évoqués, les 5 façons de s'éduquer autour de la cuisine, ça peut permettre pour les 10 prochaines années à avoir vraiment moins de consommateurs et plus de mangeurs.
Mais même les gens qui ont un peu plus les moyens, on tombe complètement facilement dans les grands phénomènes de mode aussi. Il y a eu le truc des super aliments où c'est sans fin. D'un coup, il y a la graine de chia qui arrive. On nous dit que c'est super, que c'est bon pour la santé. Il y en a dans absolument tous les petits trucs de brunch dans toutes les villes. L'avocat et là, ils arrivent plus à en produire.
L'avocado,
toast à l'avocat, les gens achètent tous les jours.
C'est ça. Et puis, alors, ceux aussi qui ont les moyens de se dire je vais à tout moment dans l'année avoir mes tomates, mes mangues, mes ananas,
mes fraises. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même quand tu essayes de faire bien et d'aller dans des établissements qui te proposent des trucs un petit peu en circuit court, il y a toujours des trucs à la carte.
Oui, mais quand on croit trouver une solution à l'un des maux de notre planète, que ce soit tout à l'heure, on blaguait sur les voitures diesel, les voitures électriques, c'est vrai que d'un coup, on pense, et moi le premier, sauver la planète, on lance une voiture électrique, puis d'un coup, t'apprends qu'il y a des mines entières à ciel ouvert de lithium, qu'on saura pas quoi faire des batteries, qu'on est en train de pourrir la planète pour pouvoir faire des batteries de voitures électriques. On se dit, bon, est-ce que c'est un moindre mal l'énergie fossile versus les batteries. Et puis pareil, on me dit le lait de vache, faut arrêter de consommer le lait de vache parce que c'est fait pour prendre des centaines de kilos quand on est un veau pour devenir un bœuf. Donc c'est pas bon pour le corps humain et on est la seule espèce animale à continuer de boire du lait alors qu'on est sevré. Donc, ah super, il y a quoi? Il y a lait d'amande. Ah, j'ai goûté le lait d'amande. C'est bon le lait d'amande. Ah,
si tu arrêtes de boire du lait, tu mets en péril la vie.
Et après tu découvres quoi? Que pour le lait d'amande, il faut des milliers de litres d'eau, qui est l'or bleu donc, et que ça abîme encore une fois aussi la planète de prendre le lait d'amande. Et tu dis, mais alors, ok,
je fais quoi?
Ouais, alors, un bon verre d'eau, et c'est parti.
On va repasser dans le passé, un petit véhicule là qui nous permet ça. On va repasser dans le passé et on va être aux alentours du 15e siècle. Paracels disait, c'est la dose qui fait le poison. Et je pense qu'il faut, on est tous convaincus autour de cette table, c'est d'abord le plaisir. Plaisir, bien-être, santé. Et c'est la dose qui fait le poison. Mais de pousser les gens à la super consommation, et c'est là où ça a déséquilibré au voisin en disant, non, vous pouvez tout avoir et pour pas cher. Et ça, et encore une fois, je pèse mes mots en disant ça, parce que j'ai fait partie des gens qui souhaitaient ardemment acheter pas cher.
Et dans le plaisir, et on est tous logés à la même enseigne autour de cette table, il y a le sucre. Il y a évidemment, dès qu'on prend quelque chose de sucré, on sécrète peut-être quelque chose, on a un kiff, on se dit, ah là là, qu'est-ce que c'est bon.
C'est réconfortant.
Et pourtant, le sucre, c'est la pire des drogues inventées.
En vente libre.
Mais c'est vrai, mais pour aussi permettre le bien manger, ça c'est du conseil scolaire, mais aussi de donner une accessibilité au sport aux plus modestes. parce que la lutte contre la sédentarité, on ne pourra pas, c'est pas simplement dans l'alimentation. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je milite pour les clubs de foot à bas prix, vraiment là pour le coup, que ce soit une accessibilité pour les parents. Quand vous avez trois enfants, trois activités sportives différentes, il faut leur dire non, non, ben là, ce sera gratuit et vous allez venir, mais l'essentiel, c'est de faire du sport. Il y a aussi cette lutte contre la sédentarité.
Tout passe par l'éducation et on va parler de votre école aussi dans quelques instants. Et on va recevoir François Simon, écrivain, journaliste, critique gastronomique, pour parler à nouveau du bon.
Qui est dans la revue d'ailleurs.
Absolument. Mais la musique aussi dans la vie de Thierry Marx. Est-elle importante ou pas cette musique? Vous écoutiez par exemple dans les années 80. Quelle est cette musique et pourquoi elle vous évoque particulièrement les années 80?
Oh bah c'est le retour du Liban. Et j'ai découvert un jour la voix de Sœur Marie Kérouz. Et c'est drôle, il y a des moments comme ça de lumineux dans vos vies où vous dites tiens, ça correspond à un moment que j'ai vécu. Et c'est cette voix, espèce de mélange de chants maronite, melchite et de langue arabe. Et on connaissait tous Oum Kalsoum, moi je connaissais pas à l'époque, et puis un jour j'entends cette voix de Sœur Marie Kérouz et immédiatement ça m'a plongé dans le quartier d'Achrafieh que j'avais connu dans les années 80 où le quartier d'Achrafieh était lourdement touché à l'époque, notamment en 81. Et voilà, et un jour j'entendais cette voix et j'avais l'impression que j'avais connu cette voix toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi.
C'est joli. On est dans les années 80-82, vous revenez du Liban, retour en France. Et vous faites pas mal de différents jobs en fait. Vous êtes vigile, transporteur de fonds, manutentionnaire. Vous assurez la sécurité de personnes aussi. Et un jour, la femme d'un de vos clients vous demande de faire un gâteau d'anniversaire.
Oui, on avait bavardé quelques minutes. Elle s'occupait d'une personnalité importante. Et moi, j'étais là juste pour préparer le lieu dans lequel...
Tout le monde veut savoir qui, mais il le dira pas.
Et non, j'ai pas le droit de le dire. Et,
c'était qui?
Et ce qui est drôle, c'est qu'on a parlé gâteau. Mm-hmm. Et son fils avait... Vous avoir 10 ou 12 ans.
Comment on en arrive à parler gâteau avec vous? Parce que si vous assurez la sécurité, a priori, moi, je ne parle pas de gâteau avec quelqu'un qui assure la sécurité.
Une tranche de cake.
Et
donc, elle me parle gâteau. Je fais un gâteau d'anniversaire.
Vous faites? Vous pouvez nous dire ça.
Ah ouais, non, j'avais fait un gâteau pas terrible, d'ailleurs. Je pense que j'avais fait ça avec les moyens du bord. Et je me rappelais de ce que j'avais appris dans mon apprentissage de pâtissier. J'ai livré le gâteau, ils m'ont gardé à dîner. On a parlé et ils m'ont permis d'avoir un emploi différent. Mmh. Deux, ils m'ont aidé à reprendre mes études. Ils m'ont accompagné jusqu'au baccalauréat.
Vous les avez revus?
Et ils ont changé ma vie. Moi, je les revois tout le temps.
Vous ont payé l'école Le Nôtre?
Ils m'ont payé l'école Le Nôtre.
Ah ouais, non mais là on est. C'est du parrainage, c'est du.
Ils m'ont donné un catalogue et ils m'ont dit ben voilà, prenez ce que vous voulez. Et j'ai tout pris. J'ai pris le catalogue, j'ai pris tous les stages qu'on pouvait faire à l'école Le Nôtre. Ça m'a remis en route et surtout ils m'ont inscrit, au lycée Hélène Boucher. Mmh. Oui. Et j'ai repassé le brevet des collèges d'abord, parce que j'avais pas le brevet des collèges.
C'est une vanne, c'est vraiment Boucher,
Hélène Boucher,
c'est le nom,
oui. Boucher,
c'est le nom
très
à la
connu,
concours de la
Seine. Très prestigieux, c'est Hélène Boucher.
Et puis ils m'ont accompagné jusqu'au baccalauréat.
Oui, mais d'accord.
Et du coup, après, j'ai quitté la France, mais vraiment, ils ont compté dans ma vie, ils comptent dans ma vie.
Ouais. En 2005-2006, vous écoutiez Ayo. Y a que les voix de femmes qui vous troublent.
Non.
Et c'est la sortie 2005-2006 de votre ouvrage Planète Marx. C'est un peu mégalo ou pas, Planète Marx? Comme titre, vous avez hésité?
Oui, c'était mégalo. J'avais écrit une dizaine de textes. Et puis, j'ai rencontré une photographe formidable qui était Mathilde Lécotet, et ça a fusionné, ça a marché tout de suite. Et elle aimait déranger les cercles, moi aussi. Et elle m'a dit non, ça devrait s'appeler Planète Mars, parce que t'as l'air un peu fumé, comme ça, t'es tout seul sur une planète. J'étais un peu seul sur la planète.
Et vous avez vraiment, quand vous vous dites fusionner, on parle de cette cuisine du 21e siècle, d'un voyage en apesanteur, quelque chose, cette cuisine fusion, cette cuisine incroyable.
Bonne allusion avec Thomas Pesquet dans la revue.
Oui, c'est parce qu'on parlait de gastronomie moléculaire, et beaucoup se risquaient de dire que ça allait être une tendance de cuisine. Or que très rapidement, avec David Edwards et Raphaël Aumont, on pensait que c'était plutôt un outil de compréhension pour pouvoir aller plus loin. Mais que ça ne pouvait pas devenir une tendance de cuisine. Mais ça nous a mis un petit peu en apesanteur pendant un moment.
Et vous étiez chef de l'année par Le Goût et Millau dans années 2000, 2005 aussi. François Simon, justement, on va parler de tout ça. Bonjour et merci de venir à ce micro.
Bonjour.
Écrivain, journaliste, critique gastronomique. Vous êtes en train d'écrire ou de publier un roman.
Oui.
Il est publié ?
Oui, il est sorti au mois de septembre, c'est sur John Lennon et Yoko Ono quand ils étaient au Japon.
Le silence.
Personne n'en a parlé, ça s'appelle Le silence de
l'amour. De l'amour, aux éditions Les Équateurs. Quelle est votre définition du bon ? Votre propre définition ?
Alors là, ce que j'aime bien, moi, dans un mot, c'est que c'est une porte ouverte. Et j'aime pas mettre des normes et des cloisons. Et j'aime bien lorsqu'on évoque le mot bon, tout le monde puisse se l'approprier, sans pour autant se faire chasser de son bon ou de son mauvais goût. On a tous un mauvais goût et souvent on le revendique. Et donc le bon goût, pour moi, n'existe pas en soi. Il est ce que j'appelle moi une sorte de macro-gastronomie, c'est que chacun, maintenant, a son petit univers constitué de repères. Alors qu'avant, on était dans l'adhésion sociale. Il y avait le bon et le mauvais goût. Et il y avait la cuisine bourgeoise, la cuisine populaire, et c'est tout était rangé. On en faisait des guides. Aujourd'hui, tout a explosé ou implosé. Et moi, je trouve ça formidable parce que finalement, chacun est renvoyé à soi-même et on a sa propre notion du bon.
Oui, pourtant, vous dites le bon s'est fait la malle. Vous écrivez, il a été englouti par des gloutons.
Oui, ça, c'est vrai, mais ça, c'est dans les restaurants. Hein, parce qu'en ce moment, le bon, effectivement, quand on y réfléchit bien, dans les restaurants, ce qu'on nous propose, c'est une expérience. Ou un voyage. C'est souvent des mots comme ça allusifs, et à la limite, on peut se manger une porte, c'est aussi une expérience.
Et un voyage, urgence. C'est la fin du voyage.
C'est la fin du voyage. Un petit goût de bois, c'est pas dérangeant.
Qu'est-ce qui vous manque dans les restaurants, de revenir à des fondamentaux ?
Ouais, je pense que, de toute façon, ils vont revenir, parce que c'est toujours cyclique, c'est comme dans la mode, il y a des époques très rigoureuses, et ensuite il y a des époques très fantaisistes, il y a eu la nouvelle cuisine qui révolutionnait la cuisine classique, et ensuite, quand il y a eu trop de nouvelles cuisines, on a fait des cuisines très prussiennes, c'était l'époque Robuchon, Ducasse, où tout était riveté, et puis après on en a eu marre, on a fait du moléculaire, et ensuite, et sans arrêt, on change. Oui, et en ce moment, on est dans le voyage.
On est dans l'ouverture des cartes qui vous permettent d'avoir de la nourriture japonaise, mexicaine,
fusionne.
Des spécialités, voilà. Et ça, mais ça, c'est une décision des chefs, à votre avis, ou une demande des clients ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est mêlé. On est tous dans un monde qui fusionne. Donc, la cuisine est totalement le reflet de ce que nous sommes. On a des sentiments très mêlés, très confus. On est dans une période un peu perdue. Donc, la cuisine est comme ça.
On est d'accord que de manger local, de suivre les saisons, ça peut limiter aussi les possibilités pour certains restaurants et ne manger que des endives, des patates ou des potirons parce que on est en hiver, ça limitera aussi le champ des possibles.
Oui, mais ça, vous êtes dans un discours qui est bienveillant et qui est optimiste. Mais en fait, quand vous regardez les gens, quand vous regardez, on est capable d'alterner dans une semaine les pratiques les plus absurdes et même les plus nulles de la terre, bouffer de la bouffe dégueulasse, sans rien dire. Et le soir, d'agonir un pauvre cuisinier qui aura loupé la cuisson de la pizza. Et le lendemain, de faire un dîner en famille adorable avec un pot-au-feu très responsable. Et le surlendemain, d'aller dans un vietnamien dégueulasse. Et où voulez-vous qu'on soit aujourd'hui ? On est perdu. Donc la cuisine reproduit souvent de façon heureuse cette perdition. Mais la plupart du temps, c'est un peu... C'est quoi le mot ? Il n'y a même pas de mot pour ça.
Est-ce que le critique gastronomique que vous êtes va dans le sens de Thierry Marx sur l'importance de l'éducation et de l'école ?
Je pense que Thierry Marx a tout à fait raison. Plus on est instruit, mieux, plus on a de goût, plus on voyage, plus on comprend les autres, plus on comprend la différence, plus on est bienveillant. Et plus on reste chez soi, plus on reste renfermé, plus on reste identitaire, plus on a peur. Et ça fait des nourritures de peur. Je pense que c'est une sorte de bon sens qu'on a oublié. Les gens ont besoin de savoir, d'apprendre, et même aussi de tout oublier. Je pense aussi que c'est bien aussi, moi ce que j'aime bien dans la nourriture, c'est que l'on oublie à la fois son milieu, sa culture, on va à l'instinct, on va au marché, ou je sais pas quoi, même si on n'a rien du tout. Moi, j'ai terminé un livre qui s'appelle « La poétique du jambon beurre ». Et je crois qu'en fait, moi je passe ma vie dans les restaurants, vraiment, je passe ma vie là-dedans. Mais je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus bon qu'un jambon beurre au soleil, tranquille, peinard? Pour moi, c'est ça le bon goût. C'est ça l'origine du goût, en quelque sorte.
Le jambon beurre, vous avez le pain avec le gluten, la baguette à 29 centimes chez Leclerc, le jambon rosé, coloré, on a pris ça aussi, parce que bah oui. Apparemment, si le jambon est gris, mais s'il est gris, il se vend pas, donc il faut qu'il soit rose, donc on rajoute des colorants, et puis là-dessus, vous rajoutez des matières grasses, c'est-à-dire du beurre. Vous
êtes, et le cornichon.
Vous êtes sûr de votre choix?
Oui, ça s'appelle l'appropriation du risque.
François Simon, le silence de l'amour, aux éditions Les Équateurs, sur John Lennon et Yoko Ono. Leur histoire d'amour au Japon. Merci d'être venu à ce
Merci
micro.
À
et le prix de la semaine, c'est maintenant avec l'invité de Thierry Marx, c'est-à-dire Tom Villa. C'est chic. Alors, quel prix revêtu cette semaine?
Aujourd'hui, on va décerner le prix du débat de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Dans le petit matin frileux, vieux. Mon vieux.
Premier nommé, le nouveau PDG d'Orpea qui a été auditionné par l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur le scandale des maltraitances dans ses EHPAD. Alors il est prévu qu'il se rende aussi au Sénat, mais là ça sera juste pour balancer quelques prospectus pour démarcher de nouveaux clients sur le terrain. Deuxième nommé, le débat de la semaine, c'est aussi l'arrivée des nouveaux emojis. Et arrive dans nos téléphones les emojis hommes enceints et aussi personnes enceintes non genrées. Donc voilà, si vous êtes choqué, c'est que vous êtes vieux. Et si vous avez le temps de vous indigner, c'est que vous êtes dans TPMP.
Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien.
Troisième et dernier nommé, Olivier Véran, qui envisage la fin du pass vaccinal avant l'été. Yes! Alors je vous rappelle qu'en mai dernier, Olivier Véran avait dit que la page du Covid devait être derrière nous en octobre-novembre 2021. Voilà. Un conseil, quand vous allez au casino avec Olivier Véran, vous laissez parier d'abord et puis vous faites tout l'inverse.
Les EHPAD.
Et le grand gagnant dans la catégorie du débat de la semaine est... Non, les emojis et l'homme enceinte.
Bah, si.
La mise à jour de la semaine, c'est de l'iOS de l'iPhone, a dévoilé ses nouveautés. Enfin, nouveautés. De nouveaux emojis et la reconnaissance faciale Face ID, mais avec un masque. Donc là, on peut le dire officiellement, Nagui, hein, on a atteint la fin de l'évolution de la technologie. On est au max. Je veux dire, on a cherché des années à réduire la taille de nos téléphones pour au final l'agrandir, pour en faire finalement un écran sans rebord, avec chaque année le meilleur appareil photo, la meilleure antenne 3, 4, 5, 6, 7, 8G. Mais là, quand la prochaine grande avancée de la mise à jour Apple, c'est la reconnaissance faciale en portant un masque et un bonhomme jaune qui te fait un clin d'œil, bon, là, c'est qu'on est sur du fignolage. Là, ça doit être les mêmes gens qui lavent le dessous de leur bagnole à l'éléphant bleu, tu vois. Donc maintenant, ton téléphone te reconnaît même quand t'as le visage caché. Donc tu fais un coucou c'est qui avec ton iPhone. Génial. Et puis l'arrivée des nouveaux emojis, exactement. Il y en a une petite quarantaine. Enfin, c'est pas le bon mot. Une grosse trentaine, on va dire une grosse trentaine. Y avait-il vraiment besoin de remettre de nouveaux emojis? Parce que là, il y en a déjà beaucoup. Ouais. Déjà que je me sers pas de tous, je vais pas vous mentir. La bug qui se balade avec sa canne blanche, je l'ai pas utilisé.
D'ailleurs,
les principaux concernés.
Tu les connais tous, toi, les emojis?
Non, mais j'ai été les chercher pour préparer la
D'accord.
chronique.
Ah, c'est
du boulot.
Ah ouais, non, c'est clair. Non, par exemple, le demi-topinambour, le banjo, le yo-yo et l'urne funéraire, pareil, je les ai pas envoyés non plus, ceux-là. Le problème, c'est que chacun a sa propre façon de parler en emoji. Je veux dire, dans ans, quand des archéologues découvriront nos textos, qu'est-ce qu'ils vont dire pour traduire?
Attends,
ça veut dire quoi? Dans ce espagnol, noisette, donuts au chocolat? Non, je l'ai pas là. Alors, je préfère vous prévenir, faut qu'on pense à eux et qu'on leur prépare une petite pierre de rosette spéciale emoji. D'ailleurs, il y a des nouveaux emojis et celui qui a le plus attiré l'attention cette semaine, donc c'est l'homme enceint et personne neutre enceinte. Donc, évidemment, là, en regardant les réseaux sociaux, il y en a qui sont choqués. C'est un emoji.
Donc si t'es choqué sur un emoji, j'imagine même pas la gueule du jour où ça arrivera, ça va te choquer. Hein. Et d'ailleurs, c'est arrivé, et c'est très bien que ça soit arrivé. Et si t'es choqué que ça soit arrivé, moi je suis choqué que tu sois choqué que ça soit arrivé. On peut tous être choqué, hein, je veux dire. Et puis est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur tout ? Non, je pense pas. Alors le problème des emojis, et ça personne pourra rien y faire par contre, c'est leur utilisation et leur sens caché. Je veux dire, quand les créateurs des premiers emojis ont mis l'emoji pêche et l'emoji aubergine, je suis sûr que le mec, il avait vraiment envie de mettre le fruit et le légume. Il s'est pas dit que ça pouvait être détourné en mode, hein. On sait tous ce que ça veut dire. Voilà. Donc, l'homme enceinte, ça part d'un bon sentiment, mais j'ai peur qu'il serve beaucoup plus pour répondre à des messages du genre, alors, ça a été la soirée raclette hier? Voilà. Réponse au smiley enceinte. D'ailleurs, les mecs qui créent les emojis, ils cherchent la merde. Parce que là, véridique, dans les nouveaux emojis, il y a, donc, l'homme avec un gros ventre, et en même temps, il y a les l'emoji haricot rouge. Donc voilà, ça va donner des messages très lourds d'avance. Hein. Dans les nouveaux emojis, qu'est-ce qu'on a? On a un visage qui fond. À peine 3 semaines après la disparition des frères Bogdanov, était-ce le bon timing? Puis il y a des emojis vestiges du passé aussi. Il y a l'emoji poignée de main et l'emoji boule à facettes qui vont sortir. Ah. Et puis il y a aussi l'émoticône corail, voilà, qui est un peu un hommage à cet organisme vivant qui va bientôt disparaître et à cause du réchauffement climatique. Voilà, ouais, ça y est, a priori, on a tué tout le corail à cause du réchauffement climatique. Tout ce qui reste va mourir. Il y a aucun moyen de le sauver. Et ça, malheureusement, on n'en parle pas à la radio ni à la télé. Allez, bonne journée.
Merci. Comme Dylan.
Et Tom, on te retrouve tous les samedis à 17h à l'Européen, c'est à Paris.
Yes. Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous parler des chats. Figurez-vous, Jill Biden, la femme à Joe, en a adopté un. Il est devenu First Cat, du coup. C'est bien, First Cat.
On en parle après les infos de midi. Après les infos de midi, il y aura donc Tanguy Pastureau, bien sûr, notre invité Thierry Marx, jusqu'à midi et demi, et l'interro culture de Leïla Kadour-Boudé.
Oui.
Notre invité chef Thierry Marx.
C'est vrai, on a oublié de vous appeler chef depuis le début de l'émission, j'en suis confus et désolé.
Il a l'air complètement outré.
Dans vos cuisines, on vous appelle Thierry, on vous appelle chef, on vous appelle monsieur.
On l'appelle pas, on reste tranquille.
Chef.
Chef, parce que c'est une ponctuation finalement dans nos métiers. J'ai compris, j'ai entendu, oui chef, point, c'est pas forcément un abus d'autorité.
C'est Rogers, ouais, c'est ça, j'ai bien accusé
l'information.
C'est quoi, copie-date?
Copie-date, c'est ça. Ça reste évidemment, d'ailleurs ça a surpris toujours mes enfants quand les gens, même dans la rue, m'appelaient chef. C'était pas leur chef, quoi.
Vous êtes le chef de tout le monde, quelque part. Thierry Marx,
vous faites un peu peur quand vous froncez les sourcils. Moi, je vous appellerai chef aussi.
Vous publiez donc cette revue Bon autour de ce qui est nécessaire en termes d'éducation, de consommation, d'information aussi, de savoir ce que l'on mange. D'ailleurs, il y a aussi, on a évoqué tout à l'heure les choix un peu bobos autour de la nourriture. Sur notamment le véganisme ou être végétarien, mais c'est vrai que quand vous parlez de souffrance animale, vous dites, je ne vois pas d'inconvénient, et je vous rejoins là-dessus, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il y ait des animaux qui
souffrent.
Non, des cochons tués, des veaux tués ou des bœufs, mais autant le faire proprement, ouais. Parce que c'est quand même bon à manger et à consommer, et vous culpabilisez même à un moment donné quand vous manipulez, enfin vous ne voulez pas peut-être que la bouchère culpabilise en manipulant le veau qu'elle va mettre sur son étal. Le problème là, c'est que dès l'instant où nos politiques refusent les caméras dans les abattoirs, on refuse ces contrôles et on ne sait pas ce qui se passe, même si on a une étiquette correctement élevée ou l'étiquette élevée en France où tout va bien. Qu'est-ce qu'on en sait?
Oui, c'est très juste. D'ailleurs, ça a beaucoup saisi l'opinion publique. Et je trouve qu'il y a un basculement dans la viande. On voit les abattoirs qui vont de toute façon réduire. La consommation de la viande est en train de baisser. C'est plus un produit du quotidien.
Clairement?
Clairement, oui. Mais vous savez, le deuxième salaire de la grande distribution, en général, ou le troisième salaire, c'était le boucher. Et on voit bien que ça commence à poser un problème. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit se réouvrir des petites enseignes. Et ça veut dire que la consommation de la viande ne devient plus un produit du quotidien. Donc moi, ce que je défends pas, c'est de tirer à boulet rouge sur des gens qui mangent de la protéine animale. C'est pas mon sujet, c'est de dire mangeons mieux, mangeons moins, et peut-être qu'une viande une fois par semaine...
Réduisons, quoi.
Réduisons. C'est le flexitarisme qui m'intéresse, qui me permet de mieux rémunérer l'éleveur.
en échange de quoi il nous propose. Aujourd'hui, ce qui est scandaleux dans le prix du porc, par exemple, c'est qu'il atteint même pas le niveau du prix de la viande pour animaux. C'est ça qui est scandaleux. Donc il est même pas rémunérateur pour le voir. Il fait perdre de l'argent. À le,
ouais, ce qui est scandaleux, c'est aussi tout ce qu'on lui met dans le ventre pour pouvoir devenir qui devient.
Et puis, surtout quand on défend aussi tout ce qu'on lui met dans le ventre qui est pas forcément bon, les sols sur lesquels il est, et puis finalement de se dire non, ça c'est pour que ce soit pas cher. Mais c'est très cher finalement parce que vous le payez trois fois. Une fois à la caisse, une fois pour vous soigner, et une fois avec vos impôts pour nettoyer les intrants chimiques qu'il y a dans les sols.
Et pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Tom Villa sur les coraux, oui, il y a le réchauffement climatique, mais il y a aussi les bateaux industriels de pêche qui raclent les fonds sous-marins et qui les détruisent totalement, en rejetant d'ailleurs à la mer tout ce qu'ils ont détruit, en disant « Ah ben non, ça on n'en voulait pas », c'est-à-dire que eux, ça leur sert à rien. Il racle tous les fonds.
Encore une fois, c'est l'excès de consommation. C'est l'excès de consommation. Donc, c'est redonnons du sens à notre alimentation et arrêtons avec l'excès de consommation.
Alexis,
quand vous parlez de la consommation de bonne viande, en fait, est-ce que le risque c'est pas que ça devienne élitiste la consommation de bonne viande et que de ce fait les prix soient de plus en plus tirés par le haut parce qu'on sait d'une part, enfin, on sait que ce sont des personnes aisées qui peuvent la consommer. Et par exemple. En campagne, il peut y avoir des circuits courts, on peut acheter de la cagette, etc. C'est bien. Mais quand on est en ville, le prix d'un beefsteak va passer du simple au double selon qu'on le prend au supermarché ou à la boucherie. Comment on fait pour que les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la très bonne viande, quand même, soient tentés d'y aller plus souvent,
qui sont plus nombreux,
sans avoir une réserve et même une appréhension, ouais. Parce qu'on sait qu'on va se faire saigner à la boucherie, quoi.
Alors, ce qui est étonnant, et j'entends vraiment le propos, mais on voit et j'observe ce qui se passe dans la grande distribution. Aujourd'hui, le rayon boucherie est en train de diminuer. Et on voit se redimensionner les petites boucheries extérieures de ces magasins, à l'extérieur de ces magasins. Et on s'aperçoit, encore une fois, que le prix de la viande, c'est quand il est mal présenté. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter que de l'arrière du bœuf, vous pouvez acheter l'avant. Quand vous avez un boucher qui sait vous conseiller, finalement, il pourra conseiller pour toutes les bourses. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il n'y avait pas forcément en grande distribution où... On allongeait dans de grands linéaires énormément de viande.
Sans aucune explication.
Sans aucune explication.
Le rapport, d'où l'intérêt du retour à l'artisanat et au rapport humain et à la prescription et au conseil donné.
Et c'est ce qui est en train de se produire. Ouais. C'est intéressant parce que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes qui consomment et des fois qui ont peu de moyens sont devenues assez agile, émission de cuisine, on se renseigne beaucoup plus. Est-ce que je suis un parent maltraitant si je donne pas de la viande tous les jours à mes enfants? Bien sûr que non. Et tous les nutritionnistes écrivent là-dessus depuis 20 ans. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça où il y a une prise de conscience et on se dit non, je vais plus me faire pigeonner.
Thierry Marx, jusqu'à midi et demi, est avec nous et tant qu'il passe sur eau est déjà là avec nous.
Je n'aime pas trop les chats, par jalousie. Hein. Ils passent leur journée dans le canapé, le reste du temps ils mangent et ils se font caresser. C'est pile la vie que je voulais, moi. Et puis on leur pardonne tout grâce à leur ronronnement. Vous croyez que nous, quand on pète un vase et que derrière on fait la daronne à la maison, elle dit « Oh mais qu'il est mignon, c'est le papa à sa maman ». Ben non, elle pète un câble, même quand on a des poils. C'est important les chats dans la vie des gens. Prenez Marine Le Pen, les trois quarts de son équipe de campagne sont des chats. Tous les humains qui la côtoyaient sont partis chez Zemmour. Si elle gagne le soir du second tour, il y aura une fête au siège de Whiskas, elle criera « Miaou ». Tandis que Jordan Bardella se lèchera le oui-oui en live sur National Geographic. Et récemment, j'ai lu dans Le Parisien que Jill Biden, l'épouse de Joe Biden, la momie non égyptienne, hein, qu'on déplace en transpalette d'un point A où il dort à un point B où il fait la sieste. Les Biden ont adopté un chat. Alors Jill a posté sur Twitter des photos de la bête. Elle a le pelage gris et blanc comme Jean-Yves Le Drian. Elle s'appelle Willow. Alors Jill a rencontré ce chat en 2020. Elle donnait un discours lors de la campagne de Joe quand soudain l'animal a sauté sur l'estrade. Jill a dit un truc comme « Oh, so cute hein, !» et « Bonjour, la discrimination hein, !» Parce que le moindre mec qui fait la même chose avec un couteau à la main, en hurlant « Oui, je me suis échappé des urgences psychiatriques de Toulouse comme tout le monde », on l'abat direct. Mais un chat, ça passe. Moi, je serais l'avocat de Salah Abdeslam, je lui dirais « Prends cette briquette de lait, apporte-la au tribunal, d'accord ?» Bref, on a réalisé ensuite que le chat venait d'une ferme voisine. Pendant 2 ans, Jill et le chat ont gardé contact. Ils ont ouvert un compte Gmail au chat. Hein, le souci pour lui a été de gérer le clavier avec ses papattes. Déjà Jean Lassalle, avec ses mains calleuses de berger de 40 cm de large, il peut taper qu'une lettre sur deux. On le comprend à l'écrit aussi mal qu'à l'oral, c'est-à-dire pas. Donc un chat, bon. Hein. Et là, 2 ans plus tard, Jill Biden s'est décidé à le prendre. Alors la presse l'a déjà surnommé le First Cat. Il y avait déjà le First Dog, un berger allemand. La Maison Blanche est devenue le refuge de la SPA. Là-dedans, ça sent le faux. pauvre. Enfin, Biden, toute la journée, est obligé de dire, je jure que c'est pas moi. Si un jour Kim Jong-un envoie un missile pour riposter, il faudra sortir la valise nucléaire de dessous un énorme tas de poulet en plastique. Un Biden aura appuyé sur 12 saucisses qui font poète poète en pensant que c'est le bouton rouge que New York sera déjà ravagé. Alors, à noter que Commander, le First Dog, est déjà le troisième First Dog des Biden en un an et demi. Avant, il y avait eu Champ, qui est mort de vieillesse. Michel Drucker avait été appelé à son chevet pour entendre ses dernières volontés. Hein, il avait traduit le râle du chien de Biden. C'était la vie de ma mère, la chienne. J'aurais jamais cru que j'y passerais avant mon maître. Bon, les obsèques ont été dignes. Hein. L'éloge funèbre a été prononcé par Snoop Dogg. On a joué du Joe Cocker. Yeah. Non, parce que j'ai envie de rentrer à la chaîne d'animaux parce que j'en ai marre des gens, donc je leur fais des petits signes. Ensuite, il y a eu Major, mais le chien n'a pas réussi à s'acclimater à la vie citadine. Donc, il a été exfiltré à la campagne. En fait, le même parcours Karine Le Marchand. Et enfin, Commander, le troisième, bah lui a l'air de tenir psychologiquement et physiquement. C'est un guerrier, ce chien. Hein, tous les matins, il fait 120 pompes en Marseille. Parfois, Joe Biden lui lance ses dents, le chien les lui rapporte. Enfin, il est super. Et là, alors que tout se passe bien pour ce chien, eh ben, on lui colle un chat. Il se retrouve dans la posture de Valérie Pécresse, obligé de se farcir Éric Ciotti. Bon, à la différence que Ciotti ne rapporte jamais de balade un moineau dans sa bouche, parce qu'il bon, il préfère la blanquette. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que les Biden ont pris un chat? Eh ben, pour détourner l'attention. Parce qu'à chaque photo du chat en train de se lisser la queue avec la langue, on parle un peu moins du bilan de Biden. C'est l'effet animaux. Si Blanquer, au retour d'Ibiza, s'était filmé dans sa baignoire avec Toto, un dauphin adopté sur place, ou avec Kevin, un clubber. Hein, pour les distinguer, Kevin, c'est celui qui crache pas d'eau par son orifice de derrière. Voilà. Alors, c'est qu'il a vraiment trop bu de cristalline, quoi. Bon, ben, on aurait moins remarqué les hésitations de Jean-Michel Blanquer. C'est l'effet animaux. Et là, Biden, c'est ça. C'est le Blanquer Yankee. Sur la crise ukrainienne, il hésite, il est pas bien. Il voit bien que les Russes sont tous en train de se poster le long de la frontière. Mais il doit se dire qu'ils font une chenille. Super ambiance, il se dit en cherchant un Airbnb dans le coin. En politique intérieure, il fait face à une inflation terrible. La moyenne frite prend 3 dollars par jour. Kamala Harris, la vice-présidente, attend qu'il clame pour avoir le job. Elle a appelé le prince Charles qui lui a dit c'est pas à moi qu'il faut demander des conseils, hein, clairement. Et le Covid ne s'arrête jamais. Bon, il doit juste y avoir le Martin Blachier local, qui dit que c'est fini. Bref, c'est compliqué pour lui, d'autant qu'il a quand même 79 ans. Je veux dire, normalement, sa journée, ça devrait être mot fléché, déjeuner, mot mêlé, slam avec Cyril Ferraud, dîner. Et là, il se retrouve à tout gérer, hein, alors qu'il devrait être dans son pieu avec une tisane. Donc, pour s'en sortir, sa femme a eu cette idée, adopter un chat. Toute l'Amérique, depuis 8 jours, elle a dit « Oh, il est trop mignon, le loulou !» Et pendant ce temps-là, on oublie le reste. Et ça, il n'y avait pas pensé, Macron, flair politique, gnagnagna, tu parles, la crise des gilets jaunes. Il nous sortait un rat qu'Hidalgo aurait pu caster. Il le foutait sur son épaule avec un bout de gruyère. BFM, pendant 12 jours, partait là-dessus. Ou juste un chat, quoi. Parce qu'à part moi, tout le monde aime les chats.
Merci, Tanguy Passion.
Et Tanguy, on se retrouve ce soir en spectacle entre Saint-Malo et Cancale, c'est à Saint-Coulon.
Oui, puisqu'on parle justement de tout ce qui a pu se passer dans notre récente actualité, et vous l'évoquez d'ailleurs dans la revue, dans le magazine Bon, Thierry Marx, le fait qu'on file, on donne des produits ou des antibiotiques ou des produits trafiqués aux animaux, qu'ensuite on les mange. On a entendu le nombre incroyable de poulets abattus, tués à cause de la grippe qui circulait. C'est-à-dire que d'un coup, par ce qui est censé nous faire du bien, c'est-à-dire la nourriture, on risque d'attraper des maladies qu'on ne sait plus soigner.
Ah oui, moi j'ai pas l'analyse médicale et santé là-dessus, mais il est bien évident que quand on ingère des produits qui ont été maltraités, eh bien ça a eu probablement une incidence sur notre santé.
Et ce genre, avec ce qu'on a vécu, justement, vous parliez de la Covid, avec ce qu'on a vécu pendant ces différents confinements et qu'on continue de vivre, et peut-être il va falloir continuer à apprendre à vivre avec, quand vous parlez à des responsables en disant justement « éduquons nos enfants, apprenons-leur tout ça pour les générations à venir », est-ce que vous avez l'oreille de ces responsables?
Alors, comme je n'ai pas été le premier à le dire, c'est qu'on n'a pas été nombreux à être entendus. Donc je continue à le dire et on est nombreux à le dire. Il faut bien reconnaître que dans le monde de l'alimentation, le monde des chefs, des pâtissiers, des boulangers, des métiers de bouche, on est tous là à dire « non, si on veut avoir de nouveaux mangeurs, il faut commencer par l'éducation des plus petits ».
Est-ce que ça passe aussi par les émissions de télévision consacrées à la cuisine? Il y a de nombreuses émissions, même des marques qui font des séries entières de plusieurs semaines. Est-ce que ça passe par là aussi?
Oui, bien sûr. C'est leur rôle. Bien sûr. C'est leur rôle. Encore, la cuisine, c'est quoi? C'est de donner envie à des gens en vie. C'est ça. Donc, envie de cuisiner, au moins on sait ce qu'on transforme. Calibrer un petit peu les choses. Ça, ça me paraît toujours très intéressant. Et puis, cette attractivité qu'il y a pour cette profession, ces professions liées à l'alimentation, on passe du cuisinier au pâtissier, je trouve que ça va dans le bon sens. Très honnêtement, ça va dans le bon sens.
Thierry Marx, on va parler de vos restaurants et de vos écoles, mais d'abord, Leïla, qu'est-ce que vous avez à la culture ?
CNN vient de mettre à l'honneur la ville de Marseille. Mais de quelle manière, et ça a un lien bien entendu avec l'activité de notre invité Thierry Marx.
Le rap.
Non.
Thierry Marx. À moins qu'on ne sache pas tout. À moins qu'il y ait un album sur le feu. Absolument. Ouais. La bouillabaisse vient de rentrer dans le top 20 des soupes mondiales. Elle est en quatrième position. C'est le classement de CNN. On y retrouve aussi le banga nigérian, qui est une soupe de poisson chat frais avec du bœuf et des fruits de mer séchés. Je regarde si je ne dis pas de bêtises, Thierry. Il y a aussi le pho de bœuf vietnamien ou alors le borsch ukrainien. Quelle petite soupe vous fait vous voyager ? Est-ce qu'il y a un plat étranger comme ça que vous aimez bien ? Je sais que vous aimez beaucoup le Japon, vous en parlez beaucoup, mais est-ce qu'il y a un plat en particulier que vous aimez bien cuisiner, qui vient d'ailleurs, que vous mettez pas forcément à la carte de vos restos d'ailleurs ?
Oui, c'est le dashi, le bouillon japonais. J'aime ça parce que je peux en consommer très rapidement.
Et c'est quoi le dashi ?
Le dashi, c'est assez technique, mais vous avez de l'eau minérale plutôt, une algue marine qu'on appelle du kombu, parce que c'est une algue linéaire. On monte à 90 degrés, on laisse refroidir et on ajoute ce qu'on appelle du katsuobushi, c'est du ventre de poisson séché, en général de la bonite, et on fait infuser. Et puis on filtre et on met juste une petite goutte d'une très très bonne sauce soja, non pasteurisée. Et ça vous amène très vite à satiété, ce bouillon.
Ce qui est génial, c'est que là, vous rejoignez aussi l'une de vos théories, zéro déchet. Il faut arrêter de penser que quand on prend un poisson, il n'y a qu'une partie à manger. Vous vous dites, je me sers de tout.
Oui, c'est fou qu'on ait des cours maintenant pour apprendre à ne pas gâcher. Mmh. Or que la base de mon métier, à partir du 19e siècle, c'était de donner de la valeur ajoutée à des produits simples. Donc rien ne se perdait.
Mais la bouillabaisse,
Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai sous la main ?
C'est tout ce qui reste, c'est les invendus.
Je fais bouillir et quand ça bouge, je baisse.
À petit feu, voilà, bouille, abaisse.
Et quand ça bouge, je baisse.
Faut venir plus souvent, on apprend plein de trucs.
Ce qui m'a valu un jour une émission extraordinaire où j'avais un monsieur qui était de Marseille, et on lui dit, on avait fait une bouillabaisse un petit peu revisitée, donc on s'est fait torpiller, et il dit, mais c'est facile pour vous, la bouillabaisse est née à Marseille. Ah, il disait, non, monsieur, la bouillabaisse, c'est un martigue. je mesure pas le nombre de kilomètres entre Marseille et martigue.
Ouais, mais bon, c'est pas pareil.
Non, monsieur, la bouillabaisse, c'est un martigue.
Autre question. Ouais, on reste aux États-Unis avec une belle histoire. C'est l'adaptation d'une comédie musicale française qui va être montée à Broadway.
Voilà, là.
Rodan ?
Non.
Les comédie musicale Starmania ?
Qui a dit
Les Misérables.
Les Dix Commandements.
Bravo, Tanguy. Les Dix Commandements, ah, absolument.
Je parle de la musique que j'aime.
Cadeau, Morgane. Plus de 20 ans après sa création, Les Dix Commandements sera sur scène en mai à New York. C'est un gros projet, vous vous en doutez, parce que je pense qu'ils attendent éventuellement le même succès qu'en France. Est-ce que vous avez des projets à l'étranger de chant, peut-être ? Des projets en tant que grand chef français, on sait que la cuisine française s'exporte bien, que c'est toujours vendeur. Est-ce que ça l'est toujours autant dans cette ère Covid, puisque vous l'avez dit, ça a changé quand même un peu de choses.
Oui, non, c'est on est toujours bien accueillis. Moi, j'ai développé pas mal de choses au Japon. Mais je commence à redévelopper mal de choses aux États-Unis. Donc, on a plus un bon accueil. En sachant que depuis une vingtaine d'années, on est très challengé par d'autres cuisines, qu'elles soient sud-américaines, espagnoles, italiennes. Et donc, il faut un peu jouer des coudes. Mais on est encore capable de montrer que dans la gastronomie française, il y a une économie de la qualité, il y a un savoir-faire qui trouve encore sa place quand on sait le réinventer sur l'ensemble de la planète.
Je n'ai pas cité vos trois restaurants, Thierry Marx. Il y a le Sur-Mesure, le Camélia, le Cake Shop. Les trois sont situés à l'hôtel Mandarin Oriental à Paris. Vous avez également ouvert des boulangeries. Peut-être pour ça aussi que vous réagissez sur la manière dont on traite le pain. Le pain étant pour vous produit essentiel à partager et à nourrir. D'ailleurs, comment vous réagissez sur ceux qui sont anti-gluten, anti-pain, qui disent que le pain fait grossir, le pain fait péter, le pain...
On a oublié de citer on a oublié de citer la brasserie de la Tour Eiffel au premier étage. Mais non, le pain, oui, c'est agaçant, mais il y a tout type de pain. C'est-à-dire que après, on peut cibler si on a une pathologie vraiment, on peut ne pas manger de gluten. Mais quand vous prenez un pain de seigle, par exemple, moi j'aime le seigle des Combrailles, vous savez, c'est l'Auvergne. Vous avez un pain qui est totalement sans gluten. Mmh. Donc je ne vois pas pourquoi on irait s'interdire des gluten si on n'en a pas vraiment cette pathologie. Et puis il y a une telle diversité dans le pain.
Le pain blanc, en tout cas, n'est pas réputé pour être très très bon pour la santé. La baguette à un certain nombre de morceaux de sucre, par exemple.
Le pain blanc en pousse directe, c'est-à-dire quand on fait des pains sur levain, on a une digestion qui est bien meilleure, avec des farines, encore une fois, qui sont qualitatives. Ouais. Tout est possible. Il y a une telle diversité dans le savoir-faire français en termes de boulangerie que tout le monde peut y trouver son compte, et je l'accorde, c'est que la baguette toute blanche, faite très rapidement comme ça, bah c'est du sucre, hein, ça va se transformer en sucre, et c'est pas très bon. Une très bonne boule de meule, un très bon seigle, c'est très bien.
Revenons à vos écoles, 4 écoles de réinsertion à Besançon, Villeneuve-Loubet, Marseille, Grigny, y en a d'autres qui vont s'ouvrir aussi ?
Oui, on a 9 écoles, on a une école dédiée au sport, qui s'appelle Passeport pour l'emploi, et on travaille là aussi sur l'approche sportive et l'approche nutritionnelle, bien sûr, pour ramener des personnes dans un projet scolaire ou un projet métier. Et puis, on a Media Social Food, qui est une agence de communication qui fonctionne avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, c'est 9 écoles et 2 à l'international, une en Colombie, à Bogota, et une à Détroit, bientôt.
Et l'idée, c'est de s'ouvrir, de ne laisser personne hors jeu, pour employer un terme sportif, de l'éducation.
Oui, je pense que il y a beaucoup de gens qui, depuis des années, sortent des écrans radars. C'est dommageable, et de leur donner envie de retrouver un projet. Je parle pas de métier, juste l'idée d'un projet en 12 semaines. Moi, ça me paraissait essentiel, et j'ai découvert ça il y a très très longtemps. J'étais avec Véronique Colucci au Resto du Cœur, et il y avait une réponse vraiment à l'urgence alimentaire dans ces Restos du Cœur, et comme dans beaucoup d'ONG. Et puis à un moment donné, à force de travailler avec des personnes qui étaient en grande précarité, bien souvent, je sentais qu'on pouvait proposer une formation professionnelle pour retrouver un projet d'épanouissement au travers d'un métier. Pour moi, c'est facile. La cuisine, la boulangerie, les métiers du sport, c'est des univers, des cadres éducationnels qui m'ont beaucoup aidé. Donc on a mis ça à disposition. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître que c'est 95% de retour à l'emploi. C'est
formidable.
Ça qui nous...
Bravo. Ils sont vraiment formidables. Moi, ma petite sœur a fait votre école, et vraiment bravo et merci. C'est vraiment formidable.
Et je trouvais qu'il y a des personnes qui arrivent en se disant je veux faire ça, bah, c'est maintenant.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bah déjà, désolé pour ceux là qui en ce moment étaient en train d'écouter l'émission, en train de manger une tartine, qui ont entendu Nagui parler de menaces gastriques et qui sont partis en courant en toilette. Non, ça va, là, c'est juste Nagui qui perd la boule. Désolé pour Thierry Marx, apôtre du bien manger, du responsable et du bon. Et comme c'est l'heure du déj, moi, Thierry, je vous invite avec grand plaisir à la cantoche de Radio France. Voilà. Ouais, c'est pour moi. Alors, vous n'aurez pas une impression d'immersion dans le guide Michelin? On est plus dans une ambiance, on achève bien les chevaux. Mais après 15 Ricard, vous savez, ça passe. Désolé pour tous ceux qui aiment les chats et qui, à juste raison, n'ont pas apprécié la chronique de Tanguy Pastureau qui stigmatisait le félin domestique. Eh ben, figurez-vous que cette chronique a inspiré notre invité Thierry Marx. Eh ouais, les chats seront le fil rouge du prochain numéro de Bon. 3 recettes à découvrir. Oh, chat grillé, tartare de chat et profiterole de chaton. Désolé pour nos fidèles auditeurs fans du blind test qui ont été scandalisés par le débat autour de la non-présence dans la sélection de Nagui de... Francky, c'est indispensable. Alors c'est vrai, ça fait du bien aux oreilles, pas qu'aux oreilles, ça fait du bien partout. Rien de tel, les amis, que Francky Vincent pour commencer le week-end.
Merci Thierry Marx, merci mille fois et bravo pour tout ce que vous faites dans les assiettes comme autour et comme en dehors de vos cuisines. Valérie Bonneton et Stéphane de Grotte seront nos invités lundi pour une pièce justement qui démarre par un dîner.
Absolument.
Comme ça on reste autour de la table parce que c'est vrai que c'est le premier truc qu'on se dit, c'est et si on mangeait ensemble, et si on se faisait une bouffe, et viens manger, c'est le symbole du partage et de l'amitié. Passez un bon week-end et une bonne journée. À lundi. Merci.